Bonjour et bienvenue sur C'est notre terre et avenir, le podcast environnement du lycée agricole de C. Le monde dans lequel nous vivons est un condensé de milliers de sujets divers et variés qui peuvent sembler complexes au premier abord. Le format Zoom sur vous en présente dans une optique de vulgarisation et de partage, y apportant un regard de naturaliste et de spécialiste.
Bonjour Monsieur Romain.
Bonjour Maëva.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes un ancien professeur du lycée agricole de C, et depuis votre retraite, vous pouvez vous consacrer pleinement à votre passion qui est...
La photo.
Alors comment vous est venue cette passion pour la photographie ?
C'est venu assez progressivement. Bon, j'ai toujours aimé photographier, mais je n'ai jamais eu d'appareil très performant. J'avais un argentique que j'ai acheté dans les années 90, quand mes filles étaient petites. Et là, j'ai commencé à goûter un petit peu à des photos un petit peu plus abouties. Et j'avais acheté... On m'a donné un zoom qui était assez performant. Et puis après, j'ai arrêté. Puis les années passant, les enfants grandissant, on a un peu plus de pouvoir d'achat. Donc j'ai pu me racheter un appareil photo déjà pas mal, mais pas encore extraordinaire. Et puis voilà, au fur et à mesure... J'ai adhéré à un club et puis je me suis acheté un appareil photo déjà plus sophistiqué et des zooms. Et voilà, progressivement, je me suis passionné pour la chose.
Donc vous utilisez une technique spéciale ou un matériel spécial ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Sur ce que je fais, il y a plusieurs types de photographies. Donc au départ, je faisais plus de la photo de chevaux. Parce que durant mon parcours professionnel, donc j'ai été enseignant. Et entre autres, j'ai été enseignant en CFA. Et en CFA, je m'occupais essentiellement des filières hippiques. Donc j'ai beaucoup d'anciens apprentis qui sont jockeys, éleveurs, entraîneurs, etc. Donc j'aime bien aller prendre les photos de leurs chevaux en course, à l'entraînement. Et puis, comme je suis relativement passionné de randonnée, eh ben, naturellement, je suis venu à la photo nature. Et c'est ça aussi qui... c'est dans cette direction-là que j'ai le plus évolué et travaillé. Donc le matériel, il est plutôt calibré pour la photo nature, le matériel que j'ai. Ça veut dire que, bon, longtemps j'ai eu... ce qu'on appelle un réflexe, donc un 24-36, les gros appareils, avec plusieurs zooms, hein, selon ce qu'on fait. Donc pour la photo nature, il faut, si on ne veut pas déranger le sujet qu'on prend, ou qu'il s'en aille, c'est selon, il faut des objectifs ou des zooms assez puissants. C'est ce qui coûte assez cher. Pour la photo de course, j'utilise des zooms plus courts. Et puis je fais aussi un peu de photos de concert. Donc, qui nécessite encore autre chose, c'est des objectifs lumineux, puisqu'il n'y a pas beaucoup de lumière dans les concerts. Et puis, je me suis mis un peu à la photo de rue aussi. Alors là, c'est plus polyvalent, on peut faire un peu ce qu'on veut. Mais dans la photo de rue, moins les gens voient l'appareil, mieux c'est. Donc, plus il est petit, et moins il y a des gros objectifs, et mieux ça passe.
Qu'est-ce que vous recherchez à transmettre avec cette passion ?
En fait, ça dépend du type de photo. Ce qui est intéressant, c'est de fixer un instant auquel on tient ou qu'on a vécu. Pour les animaux, j'aime bien fixer une attitude, surtout, ou alors un animal dans son environnement. Et puis, pour les photos de course ou les photos de rue, j'aime bien que ça raconte quelque chose. J'aime bien que, quand on regarde la photo, on puisse s'imaginer des choses.
Vous avez déjà participé à des expositions ou des concours ?
Alors, je fais partie d'un club. Et notre club, donc, c'est un tout petit club. C'est un des plus petits clubs de France dans la Fédération française de photo. On n'est plus que 8. Mais on fait des concours nationaux. Et puis, on fait aussi des expos. Et bon, je fais assez peu d'expos tout seul, mais j'en fais avec le club, oui.
Alors, quel est votre club ?
C'est un club qui est à côté d'ici, c'est le club d'Essé. Essé, c'est une petite commune de 500 habitants qui est entre Essé et Le Mel-sur-Sarthe.
Vous réalisez notamment des photos sur l'île d'Aix, un lieu qui vous inspire particulièrement. Est-ce que vous pourriez nous faire une petite description afin qu'on puisse visualiser ?
Alors, l'île d'Aix, c'est une toute petite île qui est dans ce qu'on appelle le Pertuis d'Antioche. Le Pertuis d'Antioche, c'est un triangle qui est entre La Rochelle, Rochefort, l'île d'Oléron et l'île de Ré. Et l'île d'Aix, elle est pas tout à fait au milieu parce qu'elle est plus près du continent. Mais voilà, elle est située à peu près au milieu du Pertuis d'Antioche. C'est une petite île qui fait 3 km de long, qui fait au plus large, je sais pas, 2 km peut-être au plus large, et puis qui doit faire 300 mètres au moins large, quoi. Hein? Donc on a fait le tour. Quand on fait le tour par les rochers, ce qu'on n'a plus trop le droit de faire parce que ça s'est pas mal éboulé, il faut 2 bonnes heures, quoi. Mais donc on a vite fait le tour quand même. Voilà. Et c'est une île, alors c'est une île un petit peu particulière. Donc elle est à 25 minutes en bateau du continent. C'est vite fait. Mais malgré tout, c'est... C'est une île qui... c'est une île. Donc, la météo n'est pas toujours la même que sur le continent. Donc, c'est une île où il y a des lumières assez vraiment spéciales, magnifiques, je trouve. Et même quand il fait mauvais, c'est rare qu'il fasse mauvais toute la journée. On a toujours un moment où on a une belle lumière pour faire de la photo. Et voilà. Sinon, c'est une île qui est chargée d'histoire parce que Napoléon, c'est là qu'il s'est embarqué... pour Sainte-Hélène, donc voilà, il a fait ses adieux à la France à l'île d'Aix, il a couché à l'île d'Aix, et c'est une île aussi qui est connue par le Fort Boyard, puisque Fort Boyard, ça fait partie au niveau cadastral de l'île d'Aix. Et c'est aussi Napoléon qui a fait ériger le Fort Boyard.
Donc vous avez plutôt une période de l'année sur laquelle vous vous rendez à cette île pour la lumière, si vous faites des photos ou quoi que ce soit ?
Non, on y va alors, parce que ma femme est d'origine charentaise et donc originaire de l'île d'Aix, enfin sa famille. Et on a gardé la maison de famille avec ses sœurs. Donc on y va à peu près toute l'année. On n'y va pas forcément longtemps ni souvent, mais on y va à n'importe quelle période quand on a envie de s'évader un petit peu ou de faire. Voilà.
Profiter.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser aux oiseaux ?
Comme je disais, je suis venu à la photo nature par la randonnée, en fait. Je me suis aperçu qu'en photographiant des oiseaux, je photographiais des tas d'oiseaux différents. Et j'avais toujours l'impression que c'était un piaf, entre guillemets. Mais quand on regarde, il y a énormément d'oiseaux, de différents oiseaux, de toutes les tailles, avec des attitudes très, très différentes, très variées, dans des habitats très variés. Donc, je trouve que c'est un monde assez passionnant. Et puis, une autre chose, c'est que la photo nature, si on veut être un peu original, on n'a pas 36 solutions. Soit on voyage beaucoup, soit... Moi, j'en fais pas mal autour de chez moi. Je fais beaucoup de chevreuils, des sangliers, des lièvres, etc., renards, etc. Voilà. Les blaireaux, j'y suis pas encore trop arrivé, bien que je les vois assez souvent. Après, c'est relativement limité au bout d'un moment. Donc, les belles photos nature, il y a des gens qui vont faire des safaris, des choses comme ça. Alors, moi, c'est pas trop dans ma... Chacun fait ce qu'il veut. Hein. C'est pas trop dans mon esprit, parce que c'est souvent pris sur des spots. Hein. Donc, ce sont des safaris, etc. C'est souvent pris sur des spots. Donc, on fait toujours un peu les mêmes photos. On va voir de très belles photos, mais c'est toujours un peu la même chose. Par contre, les oiseaux, ça bouge beaucoup, ça va partout. Il y en a énormément d'espèces, donc on peut faire des choses très différentes là où on est, au pied de chez soi, en montagne, à la mer, etc. Et donc, plus je m'y intéresse et plus je m'y intéresse. Donc, c'est pareil. Au départ, je faisais ce que je pouvais. Après, je suis adhérent à la LPO depuis... 2 ou 3 ans pour essayer de me perfectionner et puis je lis voilà.
Et donc parmi les espèces d'oiseaux lesquelles avez-vous pu photographier et comment vous faites pour les identifier ?
Alors sur l'île d'Aix il y a beaucoup d'oiseaux, donc en 40 ans les ornithologues ont recensé plus de 220 espèces d'oiseaux qui fréquentaient l'île d'Aix. Alors moi, je ne dis pas que j'en ai vu 220. Puis c'est sur 40 ans, je pense qu'il y en a Par exemple, et recenser l'aigle beauté. Des aigles beauté en France, il n'y en a déjà plus beaucoup. Je pense que le dernier qui est venu sur l'île d'Aix, à mon avis, ça doit faire un petit bout de temps. Mais peut-être que quand je dis ça, certains ornithos vont bondir. Mais je pense que c'est quand même facile, quand on a un petit peu l'habitude, d'en observer 50-60 différents. Donc, l'île d'Aix, c'est une petite île, mais il y a des paysages très variés. C'est-à-dire qu'on a les plages, on a aussi des côtes rocheuses, on a de la forêt, enfin c'est des bois, c'est pas une grande forêt, mais on a quand même des bois, on a des prés, on a des fortifications, il y a le port. Donc on a vraiment des paysages très différents, avec donc des populations d'oiseaux qui sont très différentes aussi. Donc dans les bois, alors moi je n'ai pas pu les prendre en photo, mais il y a des petits ducs par exemple. On peut prendre, il y a des fauvettes, on va trouver tout ce qu'on trouve classiquement dans un bois en France. Et au bord de la mer, on a donc les oiseaux marins, donc il y a les mouettes, les sternes, les goélands. On va trouver à peu près toutes les principales espèces de mouettes, de sternes et de goélands. Mais on va avoir aussi beaucoup d'aigrettes, d'hérons. On va avoir... c'est un peu marécageux aussi. Hein. Il y a une zone qui est un petit peu entre les parcs à huîtres et la plage qui est un peu marécageuse. Et là, je me suis aperçu qu'on avait beaucoup d'oiseaux du style tarier-pâtre, cisticole, déjon, des tas de petits oiseaux comme ça, très très variés en fait. Dans les oiseaux, et puis on va trouver dans les oiseaux d'eau les migrateurs, ou alors ceux que l'on trouve un peu dans tous les plans d'eau ou au bord de la mer, les barges, les bécasses. Alors des bécassos, j'en ai même pas parlé tellement. Les bécassos, on peut pratiquement s'asseoir au milieu d'eux, quoi, les bécassos, les tournepierres. Il y a aussi une population de bernaches cravants, ce sont des oies qui sont toute l'année sur l'île d'Aix maintenant. On va avoir des avocettes. Il y a très souvent, moi j'avais pas remarqué, et depuis que j'ai fait attention, il y a des courlis scorlieux, il y en a très très souvent. Donc je trouve que c'est de très beaux oiseaux. Bon, des cormorans, ça il y en a partout. Des échasses. Alors il faut vraiment y regarder, parce que au début je me demandais ce que c'était. J'avais photographié sans voir. Des grands gravelots, j'en photographie assez souvent. Et c'est pas toujours très courant, mais bon, sur l'île d'Aix, ça l'est. Des huîtriers pies, moi j'aime bien, c'est assez joli. Et là, ça, par contre, ce sont des oiseaux qui sont assez farouches. Donc, j'arrive pas à les faire de près, mais bon. Après, la technique, c'est. Donc, ça dépend où je suis. Il y a deux techniques pour faire de la photo nature, et même pour les oiseaux, c'est soit de l'affût. Donc là, essayer de soit d'arriver avant ou pendant, ou alors au bord de la mer, c'est plus facile dans le sens où on peut arriver après, mais il faut que ça soit à marée montante, parce qu'ils vont remonter avec la mer. Donc on se pose à un endroit, quand on les voit, et puis petit à petit, ils vont forcément remonter. Donc on bouge plus et tout va bien, et s'il n'y a pas un touriste qui arrive, tout va bien. Je fais aussi des affûts, donc plutôt dans les zones marécageuses ou les bois. Donc là, on se cache, je suis équipé, généralement je suis camouflé. Hein, j'ai pas de filet, j'en ai, mais je le mets pas pour l'île d'Aix. J'ai une parka qui permet de se camoufler le visage. Je suis obligé de laisser mes lunettes parce que je suis aveugle sans mes lunettes. mes lunettes, comme elles sont un petit peu kaki foncé, ça passe, ils me voient pas trop. Et avec la capuche qui dépasse en général. Mais c'est vrai que il faut penser à avoir des gants, par exemple, les gants kaki, parce que si vous avez les mains blanches et que ça bouge, ça part. Sur les rochers, ce qui arrive aussi, c'est qu'il ne faut jamais faire le... C'est pour ça que quand tu disais les huîtriers, puis on y arrive. Si on fait le mètre de trop, tout le monde s'envole. Et tout le monde s'envole et ne revient pas. Donc, si on est à l'affût depuis 3 heures et qu'on fait partir tout le monde, c'est dommage. Puis c'est dommage, ça les dérange aussi. Bon, après, le dérangement est moindre parce que c'est sur les rochers, c'est pas là qu'ils nichent. Et puis, ils occupent les lieux en fonction des marées ou même de la hauteur des vagues aussi. Hein. Quelquefois, ils voudraient bien rester plus longtemps, mais si la mer elle commence un petit peu à s'agiter, ben, tout le monde s'en va.
Est-ce que vous auriez une anecdote marquante à nous raconter ?
Une anecdote. Ce qui m'est arrivé, c'est... Donc j'ai repéré un coin où il y a des cisticoles, enfin des cisticoles, je ne sais pas s'il y en a plusieurs, mais où j'arrive à photographier des cisticoles des joncs. Et donc moi, je ne suis pas un grand spécialiste, mais je discutais avec un ornitho qui me dit « Oh ben Lyon, tes photos de cisticoles, comment tu arrives à prendre ça ? C'est quand même quelque chose de farouche. » Donc quand il m'a dit ça, j'ai dit « Bah, je vais y retourner. » Et donc je me préparais à faire un affût et... À peine je suis arrivé, j'avais pas déballé mon matériel, qu'en fait j'étais nez à nez avec. Elle s'envole et c'est terminé pour la matinée. La cisticole, elle est partie. Donc ça, c'est des choses qui arrivent en photo nature. C'est que quelquefois, on va photographier quelque chose et on se trouve nez à nez avec, sans avoir préparé la rencontre. Et là, c'est foutu. Il faut oublier, il faut faire autre chose. Oui. De toute façon, ce que je dis toujours, hein, ça peut être... Au début, c'est très frustrant. Mais au fur et à mesure, moi... Je trouve qu'on vit des... Voilà, c'est des jolis moments. Et puis, bah, on ne les a pas dans l'appareil photo, mais on les a dans la tête. Et c'est... Voilà. C'est ça a son riche. Charme aussi, ouais.
Et parmi, du coup, toutes les photos que vous faites, est-ce qu'il y a une photo ou un photographe qui vous a inspiré ?
Alors, il y a des photographes très inspirants, ouais. Alors, pas que en nature. En nature, moi, je connaissais pas tellement la photo nature et en fait il y a un livre qui m'a beaucoup plu et inspiré, c'est celui de Vincent Munier sur la nuit du cerf. Donc c'est des photos de cerf mais très très sombres. Et je connaissais pas Vincent Munier à l'époque alors que maintenant c'est un des photographes animaliers les plus connus qui soit. J'aime bien aussi un photographe comme Jérémy Villet qui lui cherche exactement l'inverse. Généralement lui il fait plutôt des photos dans la neige. Il va prendre des lièvres variables dans la neige ou des lagopèdes, etc. Donc, il essaye de jouer sur le blanc ou la brume. Ça fait des très jolies photos. Et puis, dans les photographes, enfin moi, que je trouve très inspirant, même si j'en fais pas beaucoup, je fais un peu de photos de rue, mais c'est les photographes humanistes. Donc, c'est surtout... Moi, j'adore Willy Ronis ou Sabine Weiss. Il y a aussi des... Des photographes comme Dorothea Lange, qui font des photos noir et blanc, enfin monochrome, parce qu'il y a plus que du noir et du blanc. C'est des photos monochromes souvent, et c'est des photos de période, des photos qui expriment beaucoup, où en fait, rien que dans les regards, dans les expressions des gens, on arrive à voir des tas de choses. Sinon, une photo qui m'a le plus... j'ai une photo qui m'impressionne énormément. C'est une photo de Sebastião Salgado, qui doit faire partie d'une expo qui a été créée dans les années 90, qui s'appelle Gold, même si la photo est plus vieille que ça, et qui représente, alors je ne sais pas si les gens connaissent, on peut visualiser, c'est une photo des mines d'or au Brésil, où on a l'impression que c'est elle vomit des milliers de travailleurs qui remontent en fait. C'est des gens qui extraient de l'or à la main.
Et pour finir, est-ce que vous auriez un moment inspirant durant l'une de vos séances à nous raconter ? Tout à l'heure, vous parliez des rencontres en face à face.
Ben moi, ce qui m'a alors là, c'était une photo nature. Le moment qui m'a le plus impressionné dans mes photos nature, c'est ma rencontre avec un vautour. Donc c'est un vautour que j'ai photographié. Alors c'était dans les gorges de la Jonte, c'est en Lozère. Il y a beaucoup de vautours dans les gorges de la Jonte. Donc c'était un vautour fauve que j'avais photographié plusieurs fois. Donc j'étais en train de manger en fait, sur un surplomb, les jambes à moitié... Pas tout à fait dans le vide parce qu'en dessous de moi il y avait un arbre quand même. Mais et puis je photographiais le vautour qui planait. Et puis je mangeais en même temps. Et tout d'un coup, donc j'étais avec ma femme, et tout d'un coup on l'a vu arriver sur nous, mais il nous est passé à 2-3 mètres de haut. Donc un vautour, ça fait 3 mètres d'envergure. On a entendu le frottement de l'air. C'était impressionnant. Donc là, j'avais un zoom, je n'ai pas pu le prendre hein, parce que c'était trop près. Et l'autre jour, ça c'était il n'y a pas bien longtemps, dans ce genre-là, c'est pareil. Moi, je voulais photographier, j'avais repéré des chevreuils, donc j'allais photographier des chevreuils. Et je me suis retrouvé à une dizaine de mètres d'un sanglier qui a été aussi étonné que moi de me voir arriver. En fait, lui, il est sorti d'une haie et moi, je suis sorti d'une autre haie. On est arrivé presque face à face.
Et est-ce qu'il y a eu la capture?
Oui, je l'ai pris en photo, ouais, parce qu'en fait, il n'est pas parti tout de suite. Comme j'étais bien camouflé, enfin, je ne bougeais pas. Donc, je fais attention quand je fais de la photo nature, surtout avec les chevreuils, sangliers, etc. Il ne faut pas être dans le vent. Donc, j'avais bien fait attention d'être plutôt dans une zone où ils étaient éblouis par le soleil. Donc, ils ne me voyaient pas bien. Ils ne me sentaient pas parce que le vent était à l'opposé. Je ne faisais pas de bruit. Et j'étais bien camouflé. Donc, en fait, il n'a pas eu peur. Il s'est arrêté. J'ai pu le prendre en photo. Après, lui, il a sifflé toute sa meute. Donc, tout le monde est sorti, les femelles, les marcassins, etc. Ils sont tous repartis gentiment, sans trop m'avoir vu. En fait, j'ai pu prendre tout le monde. Ouais.
Eh bien, merci pour cet échange.
Merci à toi.
Merci d'avoir été avec nous pour cette présentation. N'hésitez pas à nous suivre et à nous rejoindre pour les prochains épisodes. Les nouveaux podcasts seront publiés le lundi soir. Vous pourrez les retrouver sur toutes les plateformes audio et sur l'audioblog d'Arte Radio. À très vite !